Découvrez l'application Radio France. Écoutez vos radios en direct, retrouvez toutes vos émissions à la demande et les podcasts originaux des chaînes de Radio France.
La radiodiffusion télévision française présente
À la poursuite d'Archibald Haddock.
Haddock
par Yves Aumont et François Test.
Allô? Oui?
La boucherie sans eau?
Mais non, c'est le capitaine Haddock. Ah, qui est...
Allô? La boucherie sans eau?
Mais qui est au bout du fil? Allô? Allô? Il a raccroché. Cet Olibrius paraît comme un patagon. Allô? Allô?
Deuxième épisode.
Allô?
Cap sur le château de Moulinsart.
La terre appelle fusée lunaire.
On sait que Hergé prenait la pause.
Benoît Peters.
Pour les personnages, demandait à un de ses collaborateurs, généralement Bob de Mort, de faire le croquis. Et il adorait prendre la pause pour Haddock. Et il sait très bien que comment Haddock va décrocher un téléphone, comment Haddock va claquer une porte trop brutalement, descendre un escalier. Ce sont des attitudes qu'Hergé joue. Il a fait un peu de théâtre dans sa jeunesse. Et je crois qu'il ne joue pas Tintin comme il joue Haddock. Il comprend particulièrement bien la gestuelle. Et c'est intéressant de penser que Hergé trouvait plus important de prendre la pause que de faire le croquis.
Janvier 1929. Hergé, auteur de bande dessinée, crée le célèbre reporter Tintin. 13 ans plus tard, il crédite l'un de ses nouveaux héros, le capitaine Haddock, d'un ancêtre, le chevalier François de Haddock, capitaine d'un vaisseau de la marine royale française, la Licorne. Comme le voulait l'usage au XVIIe siècle, le chevalier se voit offrir par son roi Louis XIV le domaine et le château de Moulinsart. Après bien des péripéties, son descendant fait l'acquisition de cette propriété qui devient, en 1943, le port d'attache du capitaine lui-même, de Tintin et Milou, du professeur Tournesol, de Nestor, l'indéfectible majordome, sans parler des visiteurs occasionnels et parfois inopportuns. Pour l'architecture, Hergé s'est directement inspiré de l'un des plus prestigieux châteaux de la Loire, le château de Cheverny.
Autant Tintin, pendant longtemps, nous donne le sentiment d'être un personnage dégagé du temps, une sorte de personnage inaltérable, même si son évolution se fait par petites touches, autant Haddock ressemble à un personnage romanesque. On peut reconstituer des bribes de son passé, mais surtout, on va le voir évoluer d'album en album, de manière très très forte et avec des périodes. Donc il y a une sorte de biographie du capitaine Haddock, même si nous ne le voyons pas vieillir. Le capitaine Haddock ne prend pas d'âge, sa barbe ne blanchit pas, mais par petites touches, nous le voyons évoluer. Bon, ben d'abord, on sait qu'à la fin du crabeau, il prononce une causerie à la radio sur l'alcool ennemi du marin, lui qui était vraiment le victime. On n'a pas vu passer par les alcooliques anonymes, Tintin a suffi à sa rédemption. Alors il rechute un petit peu, puisque dans la scène, Hergé n'oublie jamais d'être drôle, dans la fameuse scène, on doit interrompre la rediffusion radiophonique, puisque le capitaine Haddock s'est trouvé mal après avoir bu un verre d'eau. Et puis, il va se découvrir un passé avec son ancêtre, le chevalier François de Haddock, auquel il s'identifie. Et là, il prend une épaisseur, alors vraiment une épaisseur romanesque, puisque non seulement il a eu une jeunesse qu'on entrevoit, mais une histoire familiale. Et à partir de ce moment-là, on peut dire que Haddock va entrer dans l'âge de Moulinsart, c'est-à-dire que ce bourlingueur éternel ne va plus beaucoup passer de temps sur les bateaux, à renoncer à son métier. Il devient une sorte de gentleman farmer, plus que de châtelain, même s'il a au début des 7 boules de cristal sa petite période snob, où on le voit avec un monocle et s'essayer à monter à cheval. Bon, Nestor qui dit délicieusement le capitaine ne va pas tarder, voici déjà son cheval. Bon, c'est formidable, on comprend qu'il a chuté. C'était un personnage qui va aussi avoir beaucoup d'humeur et des variations de tempérament, comme Hergé. Quand Tournesol est enlevé dans les 7 boules de cristal, Haddock plonge dans une dépression noire, devient presque incapable d'agir, et ça coïncide exactement avec la période où Hergé, vers 1946-47, 1m48, plonge lui-même dans la dépression. Donc on sent très bien que ces variations romanesques, cette histoire d'un personnage de plus en plus casanier, etc., ressemble beaucoup à l'évolution d'Hergé et qui se projette à partir de la quarantaine, il se projette dans Haddock beaucoup plus que dans Tintin. Haddock, c'est Hergé.
Tonnerre de Brest, attention, ça va partir à plat ventre. Bandit, pirate, gangster, assassin.
Renaud Nattier, je n'arrive pas très bien à cerner Haddock. C'est un aventurier ou c'est un casanier?
Alors Haddock, c'est pas un aventurier, non. Je pense que son métier, c'était marin. Bon, effectivement, il a parcouru les mers, mais c'était sa profession. Mais je crois qu'il est plutôt fondamentalement casanier. Hein. D'ailleurs, il est toujours très réticent quand Tintin veut absolument l'emmener au bout du monde. Et son rêve, son goût profond, je crois que c'est vraiment d'être tranquillement à Moulinsart, à siroter un petit whisky, éventuellement à lire un bouquin avec le châssis à moi. Non, il est pas. Il devient beaucoup plus fréquentable, beaucoup plus bourgeois, je dirais. Hein, on le voit au début des 7 boules de cristal avec un monocle, avec un cheval. Il change du tout au tout par rapport à l'épave, hein, qui est mal habillé, mal coiffé, qu'il est dans le crabe aux pinces d'or.
Charles-Antoine de Vibray, on est ici à Moulinsart.
On est dans le château du capitaine Haddock. Exactement. Qui est aussi chez Verny.
Oui. Accessoirement.
Voilà. Accessoirement. Je suis bien d'accord avec vous.
Vous pouvez me décrire le château?
Moulinsart, en fait, est inséré, est enchâssé dans le château de Cheverny. Donc l'architecture de ces deux châteaux, c'est une architecture du début du XVIIe qui est un petit peu l'introduction de l'architecture classique, de la quintessence architecturale française qui est faite de sobriété et de symétrie. Ce qui est à gauche est à droite et réciproquement. C'est une merveille d'équilibre. Voilà, il y a en gros, un peu comme dans les dessins et dans les vignettes de Tintin, enfin de toute l'œuvre d'Hergé, il n'y a rien à ajouter.
Charles-Antoine de Vibray, Hergé est venu à Cheverny?
On n'en sait rien. Je sais qu'il y a beaucoup d'albums où Hergé a restitué des ambiances qu'il n'a même pas partagé lui-même. Je crois qu'il n'est jamais allé au Sahara. Et quand vous voyez dans le crabe aux pinces d'or la façon dont il dessine le désert, on y est. À plus forte raison, je crois qu'il s'est jamais rendu au Tibet, je ne crois pas qu'il soit rendu dans l'Everest, et la façon dont il restitue les glaciers, le bleu des glaciers, l'ambiance des glaciers, quand on lit l'album de Tintin, on a envie de prendre un manteau de fourrure tellement on a froid. Vous voyez ce que je veux dire? C'est extraordinaire.
Avançons. Moulinsart, c'est un phalanstère. Vous parlez même, Benoît Peters, de Sainte-Trinité.
Oui, alors le 3 chez Hergé, mais chez bien d'autres aussi, le 3 est une figure essentielle. Il n'y aurait pas eu le château de Moulinsart s'il n'y avait pas eu trois frères unis, trois parchemins à rapprocher, trois modèles réduits de navires. Et effectivement, je crois que les aventures de Tintin à partir des années 40 fonctionnent sur un modèle triangulaire avec Tintin, Haddock et Tournesol. Je crois que ce qui donne un prix particulier à Haddock, mais aux autres figures, c'est de ne pas être des créatures prévisibles. J'aime beaucoup le travail de Goscinny, et particulièrement Astérix, mais on peut dire quand même qu'on sait que Assurance Tourix voudra toujours chanter. Et qu'on en empêchera. On sait que Panoramix fournira la potion magique, mais pas Obélix parce qu'il est tombé dedans quand il était petit, etc. Il y a des gimmicks. Et ces gimmicks sont presque absents des aventures de Tintin. Et quand Hergé disait, à la fin de sa vie, Tintin c'est moi, mais Haddock aussi c'est moi, Tournesol par certains côtés, et les Dupont quand je suis stupide, il nous disait ça. De même que cette phrase que j'ai entendue de sa bouche dans la dernière interview que j'ai faite de lui quelques semaines avant sa mort, il me dit, si je vous disais que dans Tintin j'ai mis toute ma vie. Et il faut pas l'entendre comme une formule de convention. Plus on creuse les choses, plus on voit, oui, il a mis réellement toute sa vie dans Tintin. Et par exemple, une scène magnifique avec Haddock, c'est dans Tintin au Tibet, où Capitaine Haddock, qui est plus un homme de mer qu'un homme de montagne, a dévissé. Il est au bout de la corde. Tintin le retient avec les mains de plus en plus ensanglantées, craignant de ne pas tenir. Et Haddock lui dit, il faut couper la corde. Et Tintin dit, jamais, etc. Ils vont heureusement être sauvés. Mais c'est le moment où Hergé est en train de vivre dans sa vie personnelle, une crise conjugale, un déchirement, s'apprête à quitter sa femme. Et si vous le savez, il vaut mieux qu'il y en ait un qui souffre plutôt que les deux. Les deux ne peuvent pas tomber dans l'abîme, etc. Tout d'un coup, cette scène prend un relief et elle sonne juste. Parce qu'Hergé écrit d'abord et dessine d'abord pour lui-même. Il ne fait pas ça pour plaire, il ne fait pas ça parce que c'est ça qu'on attend de lui. Il fait ça parce qu'il veut croire à ce qu'il raconte, et pour y croire, il faut y mettre beaucoup de lui-même. Je pense qu'on a peut-être pas assez crédité Hergé de cette sincérité et de ce travail d'auteur et non pas de faiseur.
Mille sabords encore la marche. Il y en a donc pas un qui fera attention. Oh, le téléphone. Allô.
Allô.
Ah oui, Isidore Boulu n'est pas encore passé.
Charles-Antoine de Vibray, on est ici dans le château de Moulinsart. Un château qu'Hergé a un peu réduit tout de même.
Il en a retiré les deux ailes, ce qu'on appelle les pavillons latéraux, pour se concentrer sur la partie centrale et les corps de logis.
Ici, nous sommes face au grand escalier. Il y a bien une marche d'abîmée ici.
Alors, il y a bien une marche d'abîmée. D'ailleurs, elle est très régulièrement abîmée. Et comme l'escalier est utilisé en permanence, Isidore Boulu a beau se déplacer, la marche n'a jamais le temps de sécher. C'est une marche, en fait, qui est tout simplement fracturée. Le tailleur de pierre dévolu à l'entretien du château, qui s'appelle Isidore Boulu, est régulièrement appelé. Il travaille très bien parce que non seulement, en fait, il répare la marche, mais il y a tout un coffrage en bois pour justement qu'on évite de saccager un petit peu son travail. Et forcément, ça tombe toujours mal. Parce que bon. Et c'est au moment où c'est presque sec qu'à ce moment-là, Haddock et Tintin doivent quitter leur demeure. Bah forcément, comme il descend à toute vitesse, bah il oublie qu'il y a une marche qui est fraîchement recollée. Hop, et puis, il n'y fait pas attention, il glisse et il se fait mal. Donc là, vous avez, on a repris sur la fameuse marche cassée donc de l'escalier. On a remis un petit décalcomanie. Et puis d'abord, en accord avec la Fondation Hergé, en fait, c'est le seul petit clin d'œil qu'on s'est autorisé en fait dans le château. Voilà.
Autour de vous, partout, la vie, les feuilles, les fleurs, les oiseaux, les insectes. Oh, et ces parfums subtils, Tintin.
Mais à mon avis, capitaine, votre air ne sent pas précisément le muguet par ici.
Hein, qu'est-ce que vous dites, mon air ne... Ah, tonnerre de Brest, vous avez raison. Oh, je comprends, voilà l'explication.
Cette décharge municipale, hein?
Mais oui, c'est là qu'on déverse tous les détritus, résidus de fonds de poubelle de la région. C'est infect. Et ce que je ne comprends pas, c'est que des gens soient attirés par cette planteur. Voyez-moi ces roulottes au bord de la route.
Des romanichelles, sans doute,
oui. Aucun sens de l'hygiène, ces oives-là.
Benoît Peterson a beaucoup parlé, évoqué le racisme, la misogynie des Tintins. Qu'en est-il du capitaine Haddock? C'est un misogyne, c'est un raciste, c'est qui?
Dans les premières bordées d'insultes du capitaine Haddock, il y a des termes qui effectivement passent mal aujourd'hui, et ça fait même longtemps qu'il passe mal, donc Hergé en a gommé un certain nombre. Je ne crois pas qu'il y ait de racisme chez le capitaine Haddock. C'est un personnage généreux, mais parfois maladroit. On le voit dans Coq en Stock, avec les malheureux noirs qui sont enfermés à fond de cale et destinés à devenir des esclaves. Le dialogue ne réussit pas tout de suite. Avec les Romanichel dans les bijoux de la Castafiore, c'est aussi quelque chose de complexe, hein, parce que la première réaction d'Haddock, c'est de dire « mais alors, il y a des gens qui vivent comme ça, dans cette saleté, comme si ces gens l'avaient choisi, et puis quand ils découvrent qu'on les a parqués là, sur ce terrain, à côté d'un dépôt d'ordures, ils les accueillent immédiatement chez lui. » Et en même temps, il va y avoir cette chose très belle qui est que ni Tintin ni Haddock, dans les bijoux de la Castafiore, ne parviennent à établir une véritable relation avec les Tziganes. Ils sont là, on les a accueillis, mais les deux mondes s'observent un petit peu en chien de faïence, avec un peu de méfiance. Et ça, c'est aussi très beau, parce que on est sorti d'un boy-scoutisme premier d'Hergé, on montre qu'on peut à la fois accueillir et rester dans une distance ou une incompréhension. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de petites finesses. Après, Haddock va reprendre Nestor quand Nestor use de termes racistes ou méprisants par rapport aux Tziganes. Et Haddock, qui les avait tenus 20 pages plus haut, tout d'un coup est indigné quand il les voit dans la bouche. D'un autre.
Monsieur.
Eh bien, Nestor, qu'avez-vous?
Oh, monsieur, c'est terrible. Il y a là, dehors, enfin, dans l'allée d'honneur, monsieur, toute une caravane de bohémiens. Ah oui, il paraît que c'est monsieur qui leur a permis de s'installer ici.
C'est exact, Nestor.
Oh, mais monsieur, mais je n'ose comprendre.
Osez. Mais... Et vous allez mener ces braves gens jusqu'à la prairie qui borde la rivière.
Mais... En fait, que monsieur me pardonne, c'est bohémien, monsieur, c'est tous des vauriens, chapardeurs et compagnie. Oh, ces gens-là vont nous causer des tas d'ennuis.
Des ennuis?
Mais c'est certain, monsieur.
Comme s'il pouvait m'arriver encore des ennuis après que... Oui, mais... allez, Nestor, mais... occupez-vous d'eux.
Que je...
Hein?
Albert Algout. Parmi les jurons du capitaine Haddock, il y a indéniablement des jurons racistes, de mémoire comme ça, donc Canac... cannibale emplumé, quand ça s'adresse à des personnes à la peau foncée ou à la peau noire. Donc indéniablement. Alors certaines ont été gommées. Par exemple, Fatma de Prise Unique, il s'adresse à une femme voilée, je crois que c'est dans Tintin au Pays de l'Or Noir, c'est devenu Bayader de Carnaval. Alors Bayader, ça n'a rien à voir avec le monde arabe, puisque c'était plutôt en Inde qu'il y avait des Bayader. Mais Bayader de Carnaval, c'est assez joli. Donc Hergé faisait quand même gaffe, il se corrigeait.
Espèce de bassibouzou des garbates, flibustier de carnaval, fourbitruc, fatmut prise unique, moula gaufre, technocrate, cyclotron, polygraphe, nictalope.
Tintin en Congo, c'est la casserole qu'on accroche éternellement au basque d'Hergé, mais bon, il avait 22 ans sous la houlette d'un curé raciste, colonialiste, etc. Mais il s'est dépris de cela, c'est indéniable. Ça, on peut pas lui accrocher cette casserole toute sa vie. Ça m'énerve un petit peu, quoi. Puisqu'il prend la défense des Incas, il prend la défense des Tziganes, il prend la défense de Noirs musulmans, qui propose de les emmener à la Mecque. Donc, si ça est raciste ou islamophobe, je veux bien être pendu.
Renaud Nattier.
Haddock, il représente quand même un certain bon sens bien de chez nous, avec ses défauts, ses faiblesses. Je crois que ce qui caractérise le plus Haddock dans le personnage, en dehors de l'alcoolisme, c'est sa façon de parler. Hein. La richesse du langage de Haddock, c'est absolument extraordinaire. Et là, il est effectivement en dehors disons, du code linguistique. Hein. Je m'étais amusé d'ailleurs à imaginer, puisqu'on se dit toujours que Tintin, des fois, est un petit peu vieillot, anachronique et ne parle pas aux jeunes. J'aurais bien imaginé un certain nombre de jurons actuels dans le contexte politique actuel de notre société qui auraient été très amusants dans la bouche du capitaine Haddock. Je pensais à anti-système, Brexit à la crème de pudding, hologramme à roulette, glyphosate, pesticides, complotiste, capitaine de pédalo, hein, qui aurait été vraiment une insulte haddockienne s'il en est, anti-vax, grand remplacement, macroniste de gauche, hein, bougre de psychothérapeute à la sauce lacanienne. Enfin, vous voyez, si on avait voulu faire un nouvel album de Tintin, on aurait pu ajouter, c'est actualiser un petit peu les jurons du capitaine.
J'ai jamais pu supporter ce cataclysme vocal et cette manie qu'elle a déclenché mon nom.
C'est tellement gentil à vous d'être venu jusqu'ici pour m'entendre gentil.
Oh non, alors ça, jamais de la vie.
N'ajoutez rien, grand flatteur que vous êtes. Les femmes sont ces choses-là, cher capitaine Craddock.
Non, Haddock.
Albert Algou, est-ce que le capitaine Haddock cache sa timidité derrière la misogynie?
Il ne faudrait pas confondre sa peur de la Castafiore avec de la misogynie, parce que je pense que même un mec pas du tout misogyne, à certains moments, peut avoir les oreilles blessées par les trilles ou la puissance vocale de la Castafiore, dont j'ai démontré par ailleurs qu'elle, une des rares femmes de l'œuvre, n'en était pas une, puisque c'est l'ultime castrat, c'est un castrat en fait. Peut-être le capitaine Haddock le sent, quoi. Mais là, il y a toute une symbolique sexuelle dans les bijoux de la Castafiore. Il se fait piquer par le dard d'une abeille, elle lui retire le dard du nez, et puis on voit Tournesol, qui est fou d'amour, qui est en pince pour la Castafiore. Donc, le sexe est présent, l'air de rien, quoi.
Je vous souhaite la bienvenue à bord du Scheherazade.
Elle est ici.
Carissime ami.
Sauf qu'il peut, on retourne sur le radeau.
Ce cher Tintin est mon brave Arok.
Arok. Enrôle, Madame Castafiole. Arok, enrôle.
La misogynie, je ne crois pas à une misogynie de Haddock. C'est un marin, c'est un célibataire par essence. Peut-être a-t-il eu des aventures féminines éphémères. Il ne semble pas, en tout cas, particulièrement obsédé par cela. On sait que récemment, plusieurs dessinateurs se sont amusés à construire la relation Haddock-Tintin comme un couple gay. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, qu'il y ait une composante homosexuelle dans cette relation, même s'il n'y a pas forcément de passage à l'acte, parce que c'était pas vraiment le genre de la maison, le genre d'Hergé, des journaux où il publiait. Oui, ça enrichit plutôt encore l'histoire. Oui, c'est une forme de couple dont Tournesol et Nestor seraient les témoins bienveillants, comme Camus disait qu'il fallait imaginer Sisyphe heureux. On peut imaginer le capitaine Haddock comme un gay plutôt épanoui. On se trouve devant le portrait du chevalier François de Haddock, donc l'ancêtre du capitaine Haddock. Donc on avait trouvé qu'il avait toute sa place dans... Là, on est vraiment dans Moulinsart. On met à l'honneur ce portrait à cet endroit-là, dans un espace qui est véritablement dévolu, là, au chevalier François de Haddock, pour lequel le capitaine voue, il a bien raison, une certaine admiration, et il y fait souvent référence.
Charles-Antoine de Vibray, vous pouvez me décrire le chevalier...
Le chevalier de Haddock, c'est le capitaine Haddock tout craché, en fait. Hein. En fait, on a un vaisseau de ligne, en fait, qui se retrouve derrière. En fait, il est appuyé sur sa longue vue. Donc, il est vraiment capitaine d'une marine royale. Il est complètement dans son rôle. Hein. Et puis, en fait, c'est assez amusant que son ancêtre, lui, après, soit également là, également dans la même marque, dans une marine, mais une marine marchande. Voilà. Mais en fait, tous les deux sont véritablement des marins, mais des marins de leur époque respective.
Je vous rassure, monsieur de Vibray, ces jurons ne vous sont pas adressés.
Bah non. Non, c'est vraiment, on est vraiment dans l'ambiance.
Une dernière question, Renaud Nattier. Quelle dernière nouvelle avez-vous de Haddock?
Un dessinateur belge qui s'appelle Kroll, qui est le dessinateur du soir, qui a imaginé les personnages aujourd'hui. Alors on voit Tintin très vieilli, qui s'ennuie, Tournesol est mort, Milou est empaillé, et Haddock est à l'EHPAD. Est à l'EHPAD, est un peu gâteux, mais on pourrait imaginer, si un album nouveau venait à naître, qu'on reprendrait Haddock à l'âge où on l'a quitté dans Tintin et l'Alpharte. Voilà, c'est une possibilité. C'est en 2054, a priori, que Tintin tombera dans le domaine public et qu'on aura le droit, à ce moment-là, de publier un nouveau Tintin. Oui. Peut-être qu'à ce moment-là, on en saura plus sur ce qu'est devenu le capitaine Haddock.
Albert Algou, quelle dernière nouvelle avez-vous du capitaine Haddock?
Alors, il n'est pas en EHPAD, il est toujours à Moulinsart. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même, parce qu'il ne connaîtra pas le sort atroce de certains de nos anciens. Bon, il vieillit indéniablement, quoi. Donc, il a renoncé à courir le monde. Tintin, il n'est plus à Moulinsart du tout, donc Haddock y est seul. Donc il doit errer dans la galerie de marine en caressant ses souvenirs, à savoir la figure de proue de la licorne, etc. Et il a une vieillesse paisible. Il lit beaucoup. Il lit beaucoup. Lui, il lisait assez peu. C'était plutôt Nestor qui lisait. Et Nestor a disparu depuis longtemps.
Dans ce même registre, et pour terminer notre voyage, quelle dernière nouvelle avez-vous eue du capitaine Haddock, Benoît Peters?
Alors, si je devais imaginer, après quelques morceaux d'enfance, le destin du capitaine Haddock, je le verrais survivre à Tintin. Et j'imaginerais la vie du capitaine Haddock, Haddock dont nous imaginons oui, qu'il serait un grand vieillard, pestant, un peu râlant, mais finalement réalisant un certain nombre de belles choses sur ses vieux jours. En tout cas, c'est quand même le personnage le plus attachant, et je crois que quand on demande aux gens très amateurs de Hergé ou plus occasionnels, le personnage qu'ils préfèrent, unanimement, les gens répondent le capitaine Haddock. On a plus envie d'aller passer une soirée avec le capitaine Haddock que peut-être avec Tintin. Et puis avec Tournesol, la conversation serait un petit peu limitée parce que bon, il oublie de mettre son appareil auditif. Alors qu'avec Haddock, on est sûr d'une chose, on ne s'ennuiera pas.
Eh bien, mes amis, qu'en dites-vous, hein? Tout est bien qui finit bien, pas vrai?
Ah, c'est ce que j'ai toujours dit, moi. À l'ouest, à l'ouest.
Oui, bien sûr, mais je dis, tout est bien qui finit bien.
Ah, cette salle de marine très dirait bien, en effet, oulala.
Merci. Je voulais simplement dire que nos aventures s'étaient bien terminées.
Eh? Ah non, non, merci, non, j'avais entre les repas, non.
Mais non, mille sabords, je dis, tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien.
Ah, c'est plus sain. Ah, ça, vous avez raison, capitaine.
Oh, il est de plus en plus farfelu.
Ah oui, le moment est venu, mes amis.
Mais quel moment?
Mais le moment de citer le proverbe. Tout est bien qui finit bien.
C'était À la poursuite d'Archibald Haddock, deuxième épisode, Cap sur le château de Moulinsart. Avec Albert Algout, auteur du Dictionnaire amoureux de Tintin, Charles-Antoine de Vibray, propriétaire du château de Cheverny, Renaud Nattier, auteur de Faut-il brûler Tintin, Benoît Peters, essayiste, biographe d'Hergé. Extrait du feuilleton radiophonique Les Aventures de Tintin, d'après Hergé, adaptation Nicole Strauss et Jacques Langer, réalisation Jean-Jacques Vierne. Coordination Christine Bernard, attaché de production Sylvia Favre, un documentaire d'Yves Aumont et François Teste.